You're with SBS Radio.
Mireille Kayeye, bienvenue au programme.
Merci beaucoup Bertrand, c'est un plaisir d'être ici.
Et voilà, vous êtes responsable du Kirundi, donc l'une des dernières langues qui ont été ajoutées sur la grille de la SBS. Le Kirundi, une langue parlée au Burundi. Et parlez-nous d'abord de votre parcours avant d'atterrir ici à la SBS.
Je suis très ravie d'être ici en tant que la nouvelle productrice des programmes en Kirundi. Avant d'être ici à la SBS, j'ai travaillé comme journaliste au Burundi pour une radio privée au nom de Bonesha FM en tant que productrice des émissions sur la santé mais aussi pour la jeunesse. C'est ça mon parcours lié au journalisme, mais après ça j'ai travaillé aussi avec une ONG qui s'appelle FHI pour documenter des projets de santé, et je travaille aussi à l'université Monash à Melbourne. Voilà, je suis ici, je vous rejoins et je suis de retour à la radio. J'avais aucune idée que j'allais retourner encore une fois.
La presse, la radio, la presse. Donc, présenter des programmes, enquêter, documenter, c'est dans votre sang. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez encore petite.
Oui. Surtout que mon père était journaliste à la radio-télévision nationale du Burundi. Et je pense qu'il m'a un peu donné cette passion de vouloir parler au micro, de découvrir les gens à travers des interactions. Donc, du coup, j'ai grandi ayant une passion pour la radio. En général, je me suis vue le faire en grandissant.
Radio Bonesha, décrivez-nous cette radio, parce que l'univers des médias privés d'Afrique centrale, c'est un univers assez particulier quand même.
C'est une radio qui a commencé dans la période post-conflit au Burundi, vers les années 95. Et c'est une radio qui avait un objectif de pouvoir offrir une sorte de réconciliation. Il y a un moment, par exemple, les journalistes allaient trouver des gens dans des camps de réfugiés et ils les aidaient à être en contact avec les leurs, les proches. Du coup, la radio Bonesha s'est fait connaître dans ces années pour pouvoir être capable de mettre les gens en contact, à savoir que les gens étaient toujours en vie. De là, la radio a continué à produire d'autres émissions pour la santé, pour la jeunesse, mais aussi à produire de l'actualité.
Revenons-en au Kirundi à la SBS. Comment est votre expérience? Comment ça se passe, votre intégration dans la famille?
C'est une expérience vraiment fantastique, si je peux le dire. Je suis toute nouvelle, j'ai commencé au début de l'année, mais ça ne fait que quoi, une semaine qu'on a lancé officiellement les podcasts en Kirundi. C'était le 28 mai. On a quelques settlement guides, on a quelques émissions qui sont en ligne, au moins 4 ou 5. Mon expérience n'a jamais vraiment été uniquement pour produire des émissions en ligne, comme podcast. Ouais. Ça a été toujours des émissions live, ouais, en direct, où j'avais des invités avec moi, ainsi comme on est en train de le faire maintenant, où je parlais directement avec des gens et ce n'était pas pour être publié après, ou c'était pas juste des podcasts. Mais cette expérience démontre quand même qu'avec l'évolution de la technologie, qu'avec aussi la façon dont les Burundais écoutent la radio a un peu changé, a aussi évolué, et les podcasts vont pouvoir aider les gens à écouter n'importe quand ils ont un moment à eux-mêmes, s'ils sont en train de cuisiner, de faire la cuisine, qu'ils soient en train de marcher, de faire du sport, ils pourront m'écouter facilement. Donc je trouve que c'est un bon moyen de communiquer aux Burundais qui habitent ici en Australie. La majorité des Burundais qui sont ici, qui sont venus des camps de réfugiés de la Tanzanie, et parmi eux, il y a des gens qui sont devenus australiens, oui, si je peux le dire, burundo-australiens, mais qui parlent toujours la langue, qui gardent la langue, qui parlent le Kirundi à leurs enfants, et qui je pense aussi à une nostalgie d'écouter cette langue avec laquelle ils ont grandi, qu'ils ont gardé même en Tanzanie, malgré qu'ils parlaient swahili à l'époque, mais aussi cette langue qui continue d'exister ici. Et c'est pour cette raison-là qu'avec les résultats du census,
du recensement,
on a vu qu'il y avait au moins plus de 3100 Burundais qui parlaient la langue, qui voudraient sûrement écouter des émissions en Kirundi.
Donc, vous avez rencontré ces auditeurs. J'ai vu un des tout premiers podcasts, c'était la rencontre de la communauté burundaise de Melbourne. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette nouvelle d'avoir une émission dans leur propre langue?
C'est avec beaucoup d'enchantement. Ils sont très ravis. Mais imagine-toi, Bertrand, écoute, tu es en Australie, ça fait 10 ans que tu viens d'y habiter. Tu sais déjà que tu dois parler anglais dans ce pays qui parle uniquement anglais. Et un jour, après 10 ans, on t'annonce qu'il va y avoir des émissions en Kirundi. C'est difficile à y croire, mais c'est très surprenant. Les gens, ils sont très ravis, ils sont contents. Ils n'arrêtaient pas de m'appeler pour me dire, écoute, on avait soif d'écouter le Kirundi. On a soif de ce que tu vas nous raconter. On a soif de participer. On veut échanger avec les autres. On veut se connaître avec les autres Burundais. Pas seulement ceux qui habitent à Melbourne, mais aussi ceux qui sont à Sydney, ceux qui se trouvent à Perth, ceux qui sont à Adélaïde ou à Brisbane. Donc tout le monde a envie, avait soif d'une telle plateforme où ils pourraient échanger des idées, mais aussi en gardant leur langue, leur culture et aussi leurs valeurs.
Oui. Est-ce que vous les connaissiez, certains d'entre eux, ou vous êtes en train de découvrir cette communauté vous-même?
Ben oui, ça vient à deux sens. Donc il y a le côté où je dois absolument faire un effort pour connaître le maximum de Burundais qui habitent en Australie. Mais comme je suis à Melbourne, je faisais déjà partie de la communauté burundaise de Melbourne à Victoria, et qui est l'ABCV, donc l'Australian Burundian Community in Victoria, où il y a des Burundais qui habitent à Melbourne, à Shepparton, à Wagga Wagga, mais aussi à Mildura. Mmh. Mais il y a des gens qui sont des membres de la communauté, on se rencontre souvent, soit pour des réunions, mais aussi pour des fêtes. Tu sais, on a gardé des fêtes similaires comme votre culture rwandaise.
Oui, la culture rwandaise. Voilà. Et d'ailleurs, on est très jaloux de vos tambourineurs qui nous damnent le pion à tous les coups. Fois qu'on amène les danseurs de notre pays, évidemment, vous autres, vous venez avec vos tambourineurs. Jamais vu ici.
C'est du jamais vu. C'est incroyable d'avoir des tambourineurs ici. Et le message que ça lance, que ça donne aux gens, c'est qu'en fait, c'est cette unité qu'on essaie de garder, même en étant ailleurs. Les tambourinaires qui ont déjà été reconnus par l'UNESCO comme
un patrimoine mondial.
Ouais. Oui, voilà. Et qui nous font vraiment... qui nous donne une sorte de comment dirais-je,
visibilité internationale.
Oui, pour lequel on est très fiers, parce que ça représente le Burundi, ça représente qui nous sommes, ça représente le tambour royal, la force, l'unité, mais aussi la capacité à pouvoir garder quelque chose qui nous unit, malgré notre passé qui peut être un peu divisé, les histoires qu'on connaît sur le passé.
Non, c'est spectaculaire à voir. Moi, je les vois régulièrement, même sur les chaînes commerciales ici. Ils sont passés sur Channel 9, ils sont passés dans d'autres émissions et ça, c'est rafraîchissant et ça fait plaisir quand même de les voir, malgré que, bon, de l'autre côté de la rivière à Kanyalu qui sépare les deux pays, on se dit non, ça, c'est des vrais nous en train de faire ça, quoi.
Oui, ça fait plaisir de les voir. Ils sont dans les fêtes partout, soit dans les mariages, dans les événements multiculturels ici en Australie. Ouais. Ils n'en sont pas seulement à Melbourne, ils sont à Sydney, ils sont aussi à Perth. Et ils sont aussi au Multicultural Hub, où on se rencontre souvent durant les week-ends, les samedis. Tu trouveras les Burundais qui sont âgés, en train d'apprendre à comment battre le tambour aux plus jeunes. Donc c'est magnifique, c'est magique de voir qu'on est capable de garder quelque chose comme ça. C'est très puissant comme moyen de nous garder comme une communauté. Et maintenant, il y a les tambours, mais maintenant, il y a ça, il y a la SPS qui vient et qui va explorer encore plus qu'est-ce qu'on a dans notre culture qu'on devrait partager avec les autres. Seulement avec les Burundais, mais aussi avec les gens avec qui on vit, ici en Australie, oui.
Donc vous avez franchement un rôle de ciment communautaire, un ciment, et en même temps, c'est le flambeau de la communauté que vous portez là. Le Kirundi, c'est une langue cousine du Kinyarwanda.
Oui.
Ce sont deux peuples cousins.
Mm-hmm.
On sait que sur la BBC ou ailleurs, les émissions Kinyarwanda Kirundi sont des émissions jumelles, où les présentateurs, quelquefois, ils présentent ensemble, ou ils parlent. Est-ce que vous avez reçu des demandes de la communauté rwandaise de pouvoir, comment dirais-je en anglais, piggyback
C'est vrai que nos langues bantoues sont très rapprochées.
Voilà.
Je sais que si je commençais à parler Kinyarwanda là maintenant, je sais qu'il n'y aurait pas de problème. Tu me répondras facilement et on pourra parler juste moi parlant le Kirundi et toi et Kinyarwanda. J'adore la façon que danser parce que on se comprend et je pense aussi que quand je parle Kirundi à travers à mes podcasts, je pense que les Rwandais qui m'écoutent, ils peuvent aussi comprendre ce que je suis en train de dire, mais maintenant je n'ai pas vraiment eu de contact de Rwandais à part toi qui est tout près de moi avec qui je parle Kirundi ici ou Kinyarwanda. J'ai pas eu de contact pour produire quelque chose ensemble, mais il y a aussi cette, je veux dire il y a moyen de voir ce qu'on pourrait faire ensemble.
Il y a des ponts quand même culturels et linguistiques parce qu'on se comprend très bien, mis
oui.
à part deux ou trois petits problèmes d'accent, nous on se dit que vous parlez comme des enfants.
Et nous on se dit que vous parlez très lentement comme des fainéants.
On dit que les Burundais sont des Rwandais qui sont en train d'apprendre à parler en fait.
Barafina. Oui, c'est vrai.
Non mais c'est bien, on va pouvoir échanger aussi. Et voilà, revenons aux choses sérieuses.
D'accord.
La radio, vous avez prévu, j'ai vu, donc j'ai suivi votre podcast, j'écoute tout en fait. Je suis un fou de la radio et de l'histoire, de la communication. J'ai suivi tous vos podcasts et vous avez aussi les Settlement Guides.
Oui.
Quels sont les problèmes majeurs que rencontre la communauté burundaise auxquels cette émission va répondre ? Va aider à répondre, en fait, à résoudre ou à adresser.
Parmi les premières émissions que j'ai produites, il y a une émission sur comment trouver du travail, comment pouvoir se trouver une interview de travail. La raison pour laquelle j'ai vraiment insisté sur ça, c'est parce que j'ai remarqué que la population burundaise qui habite ici, c'est vrai, il y a des gens qui ont du boulot, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de travail.
Ouais.
Ça peut venir de plusieurs raisons, je ne sais pas vraiment, mais je pense que soit c'est la langue, parce qu'on vient d'un pays francophone.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
On a gardé le français de la Belgique qui nous a colonisés.
Ouais.
Et du coup, le français qui est devenu une langue officielle ne nous permet pas très facilement de nous intégrer dans une région anglaise
ouais.
ou dans un pays où on parle uniquement l'anglais. Donc, les gens qui ont appris le français à l'époque, avant de fuir vers d'autres pays limitrophes comme la Tanzanie, ont gardé le français. Ont appris le swahili et sont venus ici pour apprendre de nouveau l'anglais. Et ça peut être une barrière, la langue.
Ouais.
Deuxième chose, ça peut aussi être je dirais, la façon dont on communique avec les autres et la façon dont on s'ouvre aux autres, dont on s'ouvre aux opportunités.
Ouais.
Par là, j'ai envie de signaler, mais non, on est un peuple qui est accueillant.
Ouais.
Absolument, il n'y a rien à dire à propos de cela. Mais nous avons, je pense, une façon de vouloir rester entre nous un peu et de s'écarter pour nous protéger. Et cela se remarque peut-être parce que ce sont des gens qui ont vécu, qui ont un passé très difficiles, traumatiques aussi. Ce sont des gens qui ont un passé traumatique, comme tu le dis, et ce sont des gens qui préfèrent rester entre eux, continuer avec leur culture, faire les fêtes en Kirundi, parler Kirundi tout le temps, et non pas oser s'exposer à ce qui est à côté ou autour d'eux. En ne faisant pas ça, on rate les connexions, on ne fait pas beaucoup d'amis d'abord, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Les gens qui pourraient nous proposer du travail ne nous voient nulle part ailleurs, et donc du coup, on perd
des opportunités.
Oui.
Et il faut signaler aussi que culturellement, les Rwandais et les Burundais sont très réservés. Disons, on n'a pas l'habitude de se présenter comme les autres se présentent, ou quand on se présente à quelqu'un, on dit tout simplement son nom, mais on ne va pas commencer à parler de ses qualifications, de sa formation, de son éducation et tout ça, alors que dans d'autres cultures, c'est très courant et ça permet de pouvoir se connecter et aussi d'ouvrir des opportunités, de pouvoir se faire embaucher, de pouvoir joindre des réseaux professionnels, des choses comme ça. Chez nous, en Kinyarwanda, on dit kwirata, on se met pas trop en avant, on se met pas trop en évidence.
Ça, c'est un point sensible que tu viens de toucher, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Kwirata, et nous, on dira kwishima.
Voilà.
Tu ne peux pas te présenter et commencer à dire ce que tu as fait aujourd'hui, même si tu sais que tu as été productif. Non, ce n'est pas, on vient de ce genre
de culture
ouais, où tu ne t'exposes pas.
Oui.
À un inconnu,
oui.
Tu te réserves.
Oui.
Même si on te dit bonjour, comment tu vas, même si tu es malade, tu ne diras jamais que tu es malade, Bertrand.
Ce sont des différences culturelles qui, dans un contexte australien,
oui,
peuvent avoir des effets très, très contre-productifs.
Exactement. Et ça me rappelle, en fait, quand j'étais en train de préparer le dernier podcast, où on parlait de la façon de se présenter,
oui,
aux gens. Et il y a quelqu'un qui a mentionné que, bon, voilà, pour certaines cultures, quand tu rencontres quelqu'un qui pourra t'embaucher, tu essaies de lui montrer que tu es calme, que tu es posé. Mais en fait, dans la culture, c'est le contraire en Australie.
Ouais.
Si tu es calme et posé, ça veut dire que tu n'es pas intéressé.
Tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressant aussi.
Donc, regardez.
Et tu ne vas pas commencer aussi par parler de tes connaissances, essayer de démontrer qui tu as. Parce que chez nous, on voit l'expérience par la pratique.
Oui.
Alors
oui,
qu'ici, il faut d'abord, avant d'entrer dans la pratique, il faut d'abord pouvoir expliquer
oui,
et vendre ses talents, ses compétences.
Oui, oui.
Et là, c'est un sujet auquel il faut absolument... C'est quelque chose qu'il va falloir expliquer à tes auditeurs, leur dire, voilà, on est dans un autre contexte. Apprenez à faire votre CV et à vous présenter. Et quand vous vous présentez aux gens, c'est en même temps, c'est comme un entretien d'embauche quelquefois.
Hein. Ben oui. Les premières 5 minutes sont très importantes.
Quand on touche bientôt à la fin de notre discussion, est-ce que vous auriez un message à lancer?
On a une chance maintenant de pouvoir s'exprimer. Alors j'encourage les gens qui parlent Kirundi, mais aussi qui parlent français, qui sont en train de m'écouter, d'essayer de passer le message, de dire qu'il y a une nouvelle plateforme sur la radio SPS qui offre aux Burundais de s'exprimer, de se connecter, de se connaître encore mieux et de s'ouvrir aux opportunités qui sont ici en Australie.
Mireille Kayeye, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter le nouveau programme sur la plateforme SBS. Donc, c'est sur quel site internet?
Donc, il faut avoir l'application SBS Radio. Et de là, tu peux cliquer la langue Kirundi et tu pourras trouver directement les podcasts en Kirundi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.